7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, regard croisé sur des projets qui marchent en Afrique à l'occasion de la réunion annuelle du GRET. C'est une ONG, un centre de recherche sur le développement. Je reçois des acteurs locaux de passage à Paris. Ils sont en direct dans le studio et bien sûr, les voisins, les voisines, vous pouvez réagir, leur poser des questions. Avec nous, Amina Tandir, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous travaillez, Emmanuel. Moi c'est Emmanuel Bastide.
Bonjour Emmanuel. Pardon.
Vous travaillez à transformer une plante nuisible sur le fleuve Sénégal, le Tifa, c'est ce qu'on appelle aussi le roseau des étangs. C'est un vrai problème pour la pêche, pour l'agriculture. Et vous transformez cette plante en charbon pour la cuisine. Babacar Gueye est également avec nous. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Babacar Gueye, vous travaillez sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement à Saint-Louis, entre autres dans le quartier des pêcheurs de Kendar, qui est l'une des plus fortes dans cité au monde et où plus de la moitié des habitants n'ont pas accès à un robinet ou à des toilettes. Également avec nous, Ibamar Faye, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous gérez un projet sur l'agriculture familiale, notamment en Casamance. Comment sortir du tout arachide qui appauvrit les sols. Charles Lovis Bacchiono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au Mali, au ministère de la formation professionnelle, bien que vous soyez burkinabé, me semble-t-il.
Tout à fait.
Et vous nous parlerez de la formation des jeunes à Ségou, à Sikasso. Par exemple, quand la patate douce se vend à perte, ou comment apprendre à transformer les surplus de l'agriculture. C'est un projet qui est en train de se construire. Et quant à vous, les voisins, appelez-nous si vous participez à des projets locaux pour l'agriculture, pour l'emploi des jeunes, pour l'accès à l'eau, l'assainissement ou la lutte contre la déforestation. Quelles sont les limites de ces projets? Pourquoi ont-ils du mal à dépasser les frontières de la commune, de la région? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Amina Tandir, la consommation annuelle des ménages sénégalais en charbon de bois est assez vertigineuse. 350 000 tonnes pour cuisiner, on est bien d'accord. Conséquence, 2,5 millions d'arbres abattus chaque année, qui évidemment, eux, ne vont pas repousser en une seule année. Alors, comment est né le projet Tifa? Tifa, donc, du nom de cette plante. Moi, je ne connaissais pas le nom latin. Hein. C'est le nom latin, Tifa. C'est ce roseau
Tifa australis.
Voilà, qui envahit complètement les cours d'eau.
Oui, tout à fait. La consommation en charbon de bois et en bois de chauffe, elle est considérable au Sénégal. Et le projet Tifa est parti d'un problème qui est là, un problème transfrontalier que deux pays partagent, le Sénégal et la Mauritanie. C'est 80 à 80 000 kilomètres de surface des eaux du fleuve Sénégal qui sont colonisées par cette plante. Donc il y en a énormément. Et l'objectif du projet Tifa, c'est de valoriser cette plante-là en charbon, du charbon qui est bio.
Pourquoi il faut se débarrasser de cette plante, dans le fond?
Il faut se débarrasser de cette plante parce que elle a colonisé des zones de pêche et des zones de culture, des populations locales qui vivent tout autour du fleuve Sénégal. Et donc, c'est problématique et il faut trouver une solution.
Ça asphyxie les poissons, par exemple?
Ça asphyxie les poissons, ça empêche l'élevage, le passage des animaux. Donc, c'est un réel problème pour les communautés qui vivent riveraines du fleuve Sénégal.
Ce projet Tifa, il a démarré d'abord en Mauritanie?
Il a démarré d'abord en Mauritanie en 2011 par le GRET et l'ISETE de Rosso, où ils ont essayé de développer
C'est
l'Institut technologique de Rosso.
Qui a
ça a démarré en Mauritanie.
Comment
transformer ce roseau en charbon pour la cuisson. Et par la suite, on a transféré cette technologie-là de la Mauritanie vers le Sénégal. Avec tout ce qu'il y a en termes de capitalisation de ce qui a été fait en Mauritanie et aussi tout ce qu'il y a eu comme optimisation aussi bien sur les équipements que sur la qualité du charbon du côté du Sénégal.
La transformation, ou plutôt la production de charbon de bois, non plus à base de bois brûlé, mais de cette plante invasive sur le fleuve Sénégal, c'est le tifa, donc la plante, de l'argile et de l'eau. C'est ça la recette,
oui,
c'est plus compliqué.
C'est la recette, mais actuellement, parce que c'est un projet de recherche, On a beaucoup travaillé sur le liant, parce qu'on avait d'abord utilisé l'argile comme liant, et puis après on s'est rendu compte que la qualité du charbon n'était pas, c'était pas du charbon qu'on pouvait utiliser, parce qu'il y avait des caractéristiques physico-chimiques qu'on testait, que Lisette a nous aidé à tester durant toute
les
toute
techniciens la mise en et les ingénieurs de cet
les techniciens de Lisette, mais également qu'on faisait avec avec les communautés elles-mêmes, notamment avec des tests de cuisson qu'on préparait dans les villages.
Ouais, c'est ça. Et la ménagère est difficile, hein, parce que il faut quand même lui faciliter la vie avec ce charbon.
Oui.
Le but, c'est de confectionner des briques à la machine, hein, de petites briquettes.
Des briquettes.
Et ensuite, de pouvoir s'en servir pour la cuisson.
Exactement.
Aujourd'hui, quels sont les résultats ?
Alors, on a des résultats satisfaisants parce qu'on a quand même mis en place 3 unités de production de charbon de Tifa qui fonctionnent dans la région de Saint-Louis, ouais, à Dagana.
Maintenant, ça y est, la recette est au
maintenant,
point.
Maintenant, on est stabilisé sur les questions de qualité. On a la recette miracle, on peut dire, pour faire du charbon de qualité. Et on a aussi des artisans qui maîtrisent toute la technique de production, ouais, des équipements de production, notamment les presses et les carbonisateurs.
Ce charbon de bois, il est aussi facile d'utilisation que le charbon de bois qui déforeste.
Il est facile d'utilisation, il s'allume vite, donc avec un pouvoir calorifique assez intéressant, d'après les études qu'on a faites. Et il reste maintenant tout le travail de sensibilisation pour essayer de changer un peu le comportement des gens qui ont pris l'habitude d'utiliser depuis des décennies déjà le charbon de bois.
Il est vendu à quel prix par rapport au charbon de bois classique qu'on trouve au marché ?
Il est vendu à 150 francs de kilo. Un peu moins cher que le charbon de bois.
Un peu moins cher. Et malgré tout, vous dites, il y a un travail de sensibilisation à faire.
Il y a un travail de sensibilisation.
Preuve que le prix n'est pas tout.
L'utilisation du combustible, il est ancré dans des pratiques de cuisson et culturelles qui sont très ancrées chez les populations. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser ça depuis très longtemps. La ménagère est satisfaite avec peut-être des attentes qui sont un peu différentes en Mauritanie et au Sénégal, parce que la ménagère sénégalaise, elle est quand même un peu plus difficile que la ménagère, parce qu'on a dû quand même faire ce travail d'amélioration sur la qualité du charbon, qui en ce moment est...
L'argument, voilà. Il faut absolument arrêter de couper des arbres.
C'est l'un des objectifs du projet, l'une des dimensions, c'est la dimension environnementale du projet qui est de lutter contre la déforestation, mais également la dimension socio-économique qui est aussi de créer des emplois, de mettre en place des unités où des gens travaillent et où les gens peuvent gagner des revenus également.
Ouais. Voilà. Aujourd'hui, dans les villages où c'est mis en place donc, des zones transfrontalières, hein, entre Mauritanie et Sénégal, vous arrivez à substituer ce nouveau charbon à base de cette plante invasive dans quelle proportion par rapport à l'utilisation massive du charbon de bois classique ?
La stratégie était d'arriver déjà à atteindre un niveau de substitution de 50% déjà au niveau des villages de production. Oui. Et puis après, essayer d'étendre ça à une échelle peut-être un peu plus grande, d'essayer de gagner les villes comme Saint-Louis, comme Dakar. On a fait participer à 1-2 unités de production à des foires de produits agricoles bio, par exemple, à Dakar. Mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un niveau de 50% de substitution par rapport au charbon de bois dans les villages.
Vous y êtes déjà ou pas encore ?
On y est. Et on essaie quand même d'augmenter cet objectif-là, ouais, et d'arriver à 80% par exemple de substitution.
C'est ça. Mais là, pour des zones très 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 précises, hein, dans les villages où il y a les ateliers.
Oui, la logique c'était d'arriver à
les villageois,
à couvrir
c'est plus
le marché
de
ces villages.
De comprendre l'enjeu, évidemment.
Oui, oui, oui.
Aujourd'hui, le principal frein, c'est quoi pour arriver à étendre un peu cette proportion, cette substitution de ce charbon de bois par un charbon plus propre, en tout cas, qui est plus utile, qui évite la déforestation et qui permet de nettoyer le fleuve Sénégal, qui, d'ailleurs, en partie, maintenant, est un peu moins envahi par cette plante.
Oui, les enjeux en ce moment, c'est la commercialisation, comment arriver à vendre et surtout les enjeux de viabilité économique de ces entreprises-là. Parce qu'il y a aussi en termes de charges, leurs charges de production, comment arriver à couvrir leurs charges de production et puis comment arriver à vendre et à concurrencer un peu le charbon de bois qui gagne aussi une très grande part de marché, aussi bien dans les villages de production que dans les villes comme Saint-Louis et Dakar.
C'est un projet qui est financé par la Fondation Cartier,
exactement,
qui est une grande entreprise du luxe en France à hauteur de 450 000 euros. Mais qu'est-ce que vous avez comme appui public des autorités locales ?
On a déjà une bonne implication des collectivités, notamment le maire d'une de nos communes d'intervention, Doran, qui est très engagé dans la lutte.
Parce que ça procure des emplois aussi, notamment des emplois féminins.
De nos plus grandes entreprises est à Ronc, dans son village. Donc on essaie d'impliquer, parce que c'est la lutte doit aussi engager les pouvoirs institutionnels et aussi les instituts de développement et tous les acteurs de développement autour de la question du TIFA.
Alors évidemment, il y a beaucoup de projets autour de la substitution du charbon de bois. Un auditeur nous a envoyé le message suivant, c'est Jackie qui est à Antananarivo à Madagascar. Il nous dit qu'il existe un projet pour lutter contre la déforestation parce que plus de la moitié de la population utilise du charbon de bois. C'est de fabriquer du gaz à partir des excréments des habitants. Le projet a été lancé. Il est très peu connu, faute de sensibilisation. Certains ont du mal à l'accepter parce qu'ils trouvent ça dégoûtant, nous écrit Jackie. Une personne a même dit « Moi, je ne veux pas faire ma cuisine à l'aide de ça, c'est sale. » Il reste un long chemin à convaincre pour convaincre les gens. Vous-même, pourtant, vous n'utilisez pas, vous ne substituez pas le charbon de bois à des excréments retravaillés. Néanmoins, vous dites aussi que c'est compliqué, en fait, hein, pour changer les habitudes des consommateurs.
C'est tout le travail de changement de comportement et de changement d'habitudes qui sont profondément ancrés dans des pratiques et même dans la perception des gens, comment les gens perçoivent les sources de production d'énergie. C'est tout le travail de sensibilisation et de changement de comportement que nous rencontrons dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.
Baba Kargay.
Et voilà, je pense bien que je voudrais un peu intervenir sur ce qu'Aminata a dit, c'est qu'il y a aussi une implication forte des pouvoirs publics et qui, à force de faire des résultats dans le cadre de ce projet, permettra de l'étendre, donc également de mettre en place des lois et règlements qui pourront aider à ce que, en plus de la sensibilisation, à l'utilisation de ces ressources, de ce charbon de bois. Voilà.
Ça pourrait aller jusqu'où, ce projet ? Si le modèle commercial était vraiment viable, les ressources en termes de plantes nuisibles sont encore larges pour fabriquer ce charbon de bois ? Ce charbon de plantes, plutôt ?
Bah oui, parce que là, on tend vers un projet, on va vers une échelle industrielle déjà, où la production sera un peu plus grande. On va retourner en Mauritanie pour TIFA industriel, et où on espère que ça va
ça
aller
sera
à une échelle
où,
encore beaucoup plus grande. On va travailler spécialement à Nouakchott et à Rosso, justement, avec Lisette. Et on espère aussi pouvoir étendre ce projet-là vers d'autres pays où il y a d'autres plantes invasives, pas que le TIFA. Et voilà.
Que disent les agriculteurs, les pêcheurs qui vivent sur le fleuve Sénégal aujourd'hui ? Voient-ils une différence ?
Bon, l'objectif du projet, ce n'était peut-être pas d'avoir
de nettoyer
des résultats ou bien de tout nettoyer. Essayer de revaloriser cette plante aux yeux des communautés qui la vivent et qui la voient forcément comme une plante nuisible. Et je pense qu'on a une forte adhésion des communautés à cette idée, parce qu'elle est déjà valorisée autrement. Les femmes des villages la valorisent, elles font des nattes et la valorisent aussi dans la construction. Et nous, on a essayé de valoriser autrement, notamment dans le combustible
pour
les ménages.
C'est toujours plus lent que ce qu'on imagine au démarrage, non ?
Oui, à côté, il y a peut-être des activités de contrôle de ce TIFA-là, parce que ça envahit quand même, ça colonise des zones de pêche, des zones de culture. Et l'un des objectifs du projet, c'était aussi ça, d'arriver à amener à certains villages à récupérer leur zone de pêche et leur zone de culture, justement.
On va parler dans quelques instants de l'accès à l'eau potable dans la région de Saint-Louis. On reste donc dans le nord du Sénégal. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler, les voisins et les voisines, si vous travaillez à des projets similaires ou si vous avez vu circuler dans votre région de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire qui se heurtent tout de même à un frein au-delà de la localité quand les projets sont pas très bien connus. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Alors là, on aborde quand même un sujet encore plus compliqué, l'accès à l'eau potable avec vous, Baba Kargay, dans la région de Saint-Louis, et des problèmes d'assainissement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Aujourd'hui, sur l'assainissement, notamment que je vais, sur lequel je vais entamer avec l'assainissement, notamment avec un projet d'assainissement dans des quartiers les plus denses de Saint-Louis. Saint-Louis qui est situé à 300 km de Dakar, qui est un quartier de 25 000 habitants sur une superficie assez petite, encadrée par la mer et le fleuve. Donc le quartier de Gendar.
Qui est le quartier des pêcheurs.
Des pêcheurs de Gendar, dans lequel le projet, le GRED est intervenu dans le cadre d'un projet avec la commune de Saint-Louis et l'agence de développement communal également. Donc, et les services aussi chargés de l'assainissement, l'ONAS, pour mettre un service d'assainissement collectif pour les populations de ce quartier.
L'urgence, c'est quoi? C'est qu'il y ait un robinet, des latrines dans les écoles, dans les centres de santé, que les marchés aussi soient raccordés à l'eau?
Dans ce quartier, l'urgence, c'était d'arriver à avoir, de doter au ménage de latrines, d'ouvrages d'assainissement. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas d'ouvrage d'assainissement. Et les gens étaient obligés d'aller faire leur, si je peux m'exprimer comme ça, leurs besoins à côté du fleuve ou à côté de la mer, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Donc vous voyez un peu ce que ça fait comme nuisance, donc sur le plan sanitaire, sur le plan, voilà, donc même de la dignité. Donc voilà un peu la situation qui a été vécue avant dans ce quartier.
Ouais, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes en quelques années?
Aujourd'hui, il y a environ plus de la moitié du quartier qui est couvert par les activités qui ont été menées par le projet pour les doter de ces ouvrages-là. Et aujourd'hui, ce projet a été mené. Auparavant, vous parliez d'étendre un peu les activités que nous menons. Ce projet a été mené avec les acteurs, les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, le reste pour raccorder l'ensemble de la population sera fait par le service qui a été associé dans le cadre de ce projet-là pour raccorder l'ensemble de ce quartier.
Alors, installer des latrines, installer des robinets, c'est bien. Mais qui entretient les canalisations pour éviter les fuites, la déperdition d'eau?
Comme je l'ai dit tantôt, il y a un service qui s'occupe, on peut par exemple, si on prend l'assainissement, on peut parler de l'ONAS, qui s'occupe de ces actions-là.
L'Office national de
l'assainissement au Sénégal. Mmh. Donc quand on parle également de l'eau, il y a la SONES, Société nationale des eaux du Sénégal, qui a délégué les travaux, la gestion de l'eau à des entreprises privées qui s'occupent tous les jours de ces activités-là. Également au niveau rural, parce qu'il y a une organisation qui est un peu différente en milieu urbain, en milieu rural, il y a le même dispositif qui existe également avec l'OFOR.
Bon, donc tout ça cohabite très facilement, société privée, pouvoir public, les associations d'usagers de réseaux potables.
C'est ça.
Ça marche très très bien.
Si ça marche bien, on peut dire comme ça, parce que nous aussi, en tant qu'acteurs de ce secteur-là et aussi acteurs de développement, nous essayons de créer un lien entre ces acteurs-là, puisqu'on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, on travaille avec les communes, on travaille avec la société civile. Donc, dans le cadre de ces projets-là, je pense que l'ensemble de ces acteurs-là fait que les projets que nous menons, le fait de travailler avec l'ensemble de ces acteurs, fait que les projets que nous menons puissent aboutir et avoir des résultats satisfaisants.
Et quel rôle jouent les associations d'usagers de réseaux potables?
Les associations de réseaux potables ont joué un rôle dans un premier temps de gestion des ouvrages. Dans un premier temps, c'était de 98 à 2014. Mais en 2014, il y a l'office des forages ruraux qui a été créé. Et aujourd'hui, nous, on est en train de les accompagner pour qu'ils jouent le rôle de représentation des usagers. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être important pour l'ensemble des acteurs qui vont intervenir, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises privées, mais également que ce soit pour les usagers qui vont utiliser les services.
À la différence du projet sur lequel travaille Amina Tandir, sur la production de charbon pour la cuisine, c'est que vous, avec l'assainissement et l'accès à l'eau potable, vous êtes complètement dépendant de l'implication des autorités locales.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on fait, on le fait dans le cadre d'une politique publique déclinée, qui a été une stratégie qui est déclinée par un État. Et je pense qu'on s'inscrit dans ce moule-là pour accompagner l'État dans ses actions, qui est une politique publique nationale.
Très honnêtement, on est en direct sur RFI aujourd'hui, c'est quand même le moment de faire passer des messages. Est-ce que vous êtes totalement satisfait de l'implication de la puissance publique et de sa capacité à travailler de concertation avec les ONG, avec les usagers, etc.
Personnellement, sur le plan opérationnel, aujourd'hui, on peut dire que le GRET est satisfait de cette implication.
Sur le plan technique, c'est
ça ? Sur le plan technique. Mais je pense que s'il y avait des améliorations à faire, moi, je parlais plutôt de sur le plan financier, un apport financier. Qu'on sente qu'il y a une appropriation sur le plan financier sur les projets que nous menons.
Ouais. Parce que quand ces projets ne sont plus subventionnés, là, en l'occurrence, d'ailleurs, il y a des implications d'agences publiques de l'eau, si je ne me trompe pas. Vous êtes appuyé en termes techniques. Hein.
Ouais.
Quand ces projets ne sont plus appuyés par des financements ou des coopérations extérieures, que se passe-t-il ?
Bah, je pense que c'est la grande question qu'il faut poser parce que souvent la majeure partie des financements que nous recevons viennent soit d'agences de l'eau, soit de la coopération décentralisée. Et je vais en profiter pour en citer quelques-unes comme l'agence de l'eau Seine-Normandie, l'agence de l'eau Adour-Garonne, il y a aussi le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, il y a aussi la région Occitanie. Donc ce sont ces différents partenaires financiers, l'Union européenne. Mais ce qu'on ne ressent pas, moi je pense qu'il faudrait de plus en plus qu'on aille qu'il y ait plus de contributions des pouvoirs publics sur les projets que nous menons pour plus d'appropriation, plus d'implication et également plus de diffusion pour que ça soit plus largement diffusé. Quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est une exigence aussi, en tout cas un souhait partagé par les bailleurs, que le pays qui reçoit s'implique lui aussi davantage ?
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font beaucoup d'efforts et je pense qu'il faut le reconnaître, c'est les collectivités territoriales. Parce que les collectivités territoriales, souvent, s'impliquent beaucoup dans les projets que nous menons, notamment sur la contribution financière. Et je pense que c'est le moment également de le rendre un peu... Voilà.
Vous nous appelez, les voisins, les voisines, si vous le souhaitez, pour discuter, interroger aussi nos invités qui représentent le GRET et qui s'investissent dans qui gèrent des projets très différents à l'échelle du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, des projets de développement. Vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Comment faire en sorte que ces projets de développement locaux, qui fonctionnent pas si mal, passent les frontières de la région, de la commune et s'étendent. Comment peut se faire le passage à l'échelle ? 33 1 84 22 71 71. Diamonds chez 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, j'accueille à l'occasion de la réunion annuelle du GRET, qui est une ONG, un centre de recherche sur le développement, des acteurs de projets venus du continent africain, Aminata Ndir, Babacar Gueye, Iba Marfaye, Charles Lovis Bakiono. On parlait avec vous, Aminata Ndir, de recyclage d'une plante invasive sur le fleuve Sénégal, transformée en briquette pour faire du charbon à la place de ce charbon de bois qui déforeste tout le continent africain, et pas que le continent africain. D'ailleurs, on a un auditeur qui souhaite réagir, c'est Sidi... J'arrive pas, mon écran est mal positionné, je vous... Sidi Rick est à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Sidi Rick, bonjour, vous êtes en direct chez 7 milliards.
Oui, bonjour, je m'appelle. Donc, nous avons essayé à Bobo la fabrication de briquettes à partir de résidus de coproduction de coton,
oui,
pour le mettre sur le terrain en vue de substituer un peu l'utilisation du bois comme bois de chauffe dans les villes comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou.
Uh-huh.
Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que les recettes ne peuvent pas entretenir le système.
Pourquoi alors, ça n'a pas fonctionné? En fait, les briquettes de coton, c'était un problème technique au départ ou pas?
Donc, ce n'était pas un problème technique parce que nous avons quand même une unité, le matériel nécessaire qui nous a été fourni par un bailleur de fonds.
Oui.
Mais la création du système, du circuit de commercialisation et son entretien n'ont pas eu la rentabilité nécessaire pour financer le reste du système. Donc on était obligé d'arrêter.
Mmh.
Voilà.
Par rapport au charbon de bois, parce qu'évidemment c'est plus compliqué à produire que du simple charbon de bois. C'est ça.
Voilà.
C'est plus long à fabriquer.
C'est plus long. Et je ne sais pas comment ça se passe. Bon, est-ce que chez eux, là-bas, comment ils ont fait pour que ça puisse continuer?
Aminata Ndir, comment vous faites? Mais enfin, ce n'est pas encore complètement gagné la partie, hein, ceci dit, là, les briquettes à partir de cette plante, le typha, ce roseau invasif sur le fleuve Sénégal.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est l'enjeu aussi qu'on est en train de... l'une des difficultés qu'on est en train de vivre aussi dans le cadre du projet TIFA, c'est comment arriver à assurer une viabilité économique et financière de ces entreprises-là par rapport à leurs coûts de production, les charges de commercialisation, les charges de sensibilisation. Donc tout ça, ce sont des problèmes.
Mais les charges de commercialisation sont les mêmes que pour le charbon de bois, non?
Le charbon de bois, souvent, il n'est même pas... Le bois de chauffe, il n'est pas acheté. Il est ramassé, par exemple, par les ménages. Le charbon de bois, voilà, donc
c'est ça, il n'y a pas de procédé de fabrication en
réalité. Il n'y a pas de procédé de fabrication, mais au niveau même des unités de production, les équipements, il faut les entretenir, donc le TIFA et tout ce qu'il faut comme les éléments qu'il faut mettre pour fabriquer les briquettes, justement.
Il faut une petite usine,
ce sont des charges de production de l'unité.
Charles Lovis, oui. Bakiono.
Oui, je crois que le problème évoqué par l'auditeur, le voisin, pour être à la page de l'émission, est porte surtout sur le circuit de distribution. Mmh. C'est vrai que le charbon, c'est quand même une économie qui a ses rouages...
Informel, hein.
Oui, informel, mais c'est souvent énormément de monde. Il y a des circuits pour aller collecter ce charbon. Il y a des revendeuses. Il y a toute une économie, il faut en tenir compte. Est-ce que peut-être l'enjeu peut être d'introduire ces briques-là dans ces circuits traditionnels de distribution de charbon de bois? Autrement,
ce que vous soulevez comme problème, c'est que finalement, développer un autre circuit que le charbon de bois, ça veut dire aussi asphyxier les revendeuses informelles.
Le circuit existe.
Ça peut être perçu comme un risque même pour les vendeurs de charbon traditionnel qui, en Mauritanie par exemple, qui ont délibérément mené une campagne défavorisée contre la vente du charbon de TIFA. Donc ça, ce sont des résistances, par exemple, de tout un système de vente de charbon de bois qui est là depuis des années et qui voit un risque dans le développement du réseau de commercialisation du charbon.
Voilà, donc il importe de les prendre en compte et de les intégrer autant que possible dans l'initiative pour que justement ce produit ne soit pas perçu comme une concurrence au circuit et de distribution de charbon de bois.
Sidiri, est-ce qu'on a répondu en partie à votre question sur par rapport à l'échec que vous avez connu à Bobo-Dioulasso de briquettes de coton?
Oui, en partie, parce que effectivement il ne faut pas de la concurrence, mais surtout on a remarqué que les résidus, ce qu'il n'y a pas dans la nouvelle zone, les circuits de consommation. Donc il fallait un long transport Je crois que ça aussi, ça fait partie.
Ouais. Le problème du transport, effectivement, c'est ce que vous évoquiez, les circuits de distribution. Je suis désolée, on ne peut pas vous garder à l'antenne, Sidiri, la ligne est en train de se dégrader et j'en suis absolument désolée. Vous pouvez continuer aussi de nous appeler, les voisins, les voisines, où que vous soyez dans le monde, 33 1 84 22 71 71, regard croisé sur des projets de développement en Afrique, sur des sujets tout à fait cruciaux. Et bien Marfaï, vous gérez un projet sur l'agriculture familiale pour diversifier les activités et notamment sortir du tout arachide dans certaines régions. Pourquoi ?
Oui, tout à fait, c'est ça. Là, on est dans une zone du Sénégal, dans le centre du Sénégal, qui est une zone carrément agricole, mais dont les terres se sont appauvries ces dernières années et à cause justement de cette monoculture de l'arachide. Mais en même temps de l'impact des changements climatiques, ça on le sait. Donc, ce qu'on essaie de faire, ce que le GRED essaie de faire dans cette communauté-là, avec le CNCR qui est la grande, avec la FONCS qui est une grande plateforme de paysans, d'organisations paysannes au Sénégal, c'est d'essayer d'accompagner les paysans au niveau de leur localité, justement pour refertiliser leurs terres et pour aller vers ce qu'on a appelé nous une transition agroécologique. C'est de faire en quelque sorte de l'agriculture qui prenne en compte les questions d'environnement et qui permet un peu plus...
Avec quoi notamment ?
En faisant d'abord, on est dans une zone où il y avait par le passé l'intégration agriculture-élevage qui permettait à ces deux activités-là d'avoir des interrelations, que l'agriculture puisse servir à l'élevage et que l'élevage puisse servir à l'agriculture. Et ça, c'est quelque chose qui a presque disparu dans la zone parce qu'il y a plus de pâturage, parce que c'est difficile maintenant de nourrir le bétail et que par conséquent, les paysans sont obligés d'envoyer leur bétail en transhumance. Donc, l'idée là, c'est de les accompagner à plus intégrer ce système-là.
Avoir du bétail, encore faut-il que ça rapporte quelque chose. Si on prend le cas du lait, ça rapporte quoi le lait aujourd'hui au Sénégal quand on a du bétail? Il est plus taxé que le lait en poudre importé, non?
Oui, le lait au Sénégal, ça dépend des zones. Il y a des zones où ça peut marcher, voilà. Mais là, nous, on a intégré l'élevage, pas pour du lait, mais c'est d'abord pour refertiliser les terres, pour trouver de la déjection animale, pour pouvoir refertiliser les terres et ne pas être obligé d'utiliser, par exemple, de l'engrais chimique et les engrais de
champ. Donc, c'est du moyen et long terme, pas du court terme.
Non, mais pas du tout. C'est pas du court terme.
Et donc, compliqué pour des gens qui s'occupent surtout de savoir comment ils vont boucler la fin de la semaine financièrement.
Mais d'accord, mais l'idée là, c'est pas de transformer tout le système d'exploitation de la famille. C'est d'accompagner la famille sur certaines de ces parcelles à aller vers une transition agroécologique, à commencer à faire de la diversification, par exemple, alterner les céréales aux légumineuses, par exemple, tu mets de l'arachide, l'année prochaine tu mets du mil, en même temps essayer de diversifier un peu, et notamment également...
Culture maraîchère également.
Je vais faire du maraîchage.
Mais ça rapporte moins que l'arachide ?
Ça dépend. Ça dépend, parce que là, on fait du maraîchage, et c'est visé, c'est pour les femmes. C'est des groupements de femmes qui font du maraîchage et un peu pour diversifier d'abord l'alimentation au niveau de leur famille, mais également pour pouvoir vendre les surplus et avoir tout petit peu d'entrée d'argent. C'est comme ça que ça se passe.
L'agriculture, l'arachide est une culture saisonnière, donc, alors que le maraîchage, on le fait 9 mois sur 12.
Et le plus important dans ce travail-là, c'est aussi d'accompagner les communautés à se dire, pour régler nos problèmes, il faut également qu'on pense avant tout à planifier la gestion de nos terroirs, à voir comment on peut organiser les activités dans un terroir, de sorte qu'on puisse faire l'agriculture à côté, qu'on puisse faire l'élevage, qu'on puisse faire d'autres types de pratiques agricoles. Mmh. Et là, on le fait avec les collectivités territoriales, en élaborant des sortes de plans d'aménagement au niveau des terroirs, qui puissent permettre de prendre en charge ces questions-là. Parce que l'une des clés fondamentales de cette question-là, c'est toute la question de l'accès à la terre.
Mmh. C'est ce que j'allais vous dire.
Ouais,
sur le foncier, comment ça se passe
C'est ça, parce qu'on s'est dit, pour s'engager dans une transition agroécologique qui demande de l'investissement du point de vue...
Sur des terres qu'on ne peut pas transmettre quand terres, il s'agit donc du régime du compliqué. Domaine national, qui régisse sous le droit coutumier, donc c'est quoi le cas de 95% des terres au Sénégal. Comment on fait pour investir à moyen et à long terme?
Nous, on a une double entrée. D'abord, c'est de dire partout où on a des paysans qui ont déjà des terres sur lesquelles ils ont des délibérations, c'est-à-dire que les mairies ont accordé ces terres-là à ces paysans, c'est de les aider à les sécuriser, à faire des pratiques. Maintenant, partout où il y a des accès qui sont plus ou moins précaires, parce que ça vient d'un frère ou d'un ami, c'est d'organiser la négociation et la concertation entre ces paysans pour dire, OK, jusqu'à combien d'années vous pouvez laisser cette personne exploiter et trouver les moyens de garantir cela. Pour les femmes également, c'est ce qu'on a fait, parce que les femmes n'ont pas accès à la terre dans ces zones-là. Et ce qu'on a fait, c'est...
dans ces zones-là, on va dire, partout dans le monde.
Ouais. Mais ce qu'on a fait, c'est quand même d'organiser des négociations, de sorte qu'aujourd'hui, dans toutes nos zones d'intervention, il y a vraiment des propriétaires terriens qui ont accepté de donner une partie de leur terre aux femmes sur une durée vraiment illimitée. Donc ça veut dire que c'est également un des piliers de ce travail-là au niveau du bassin réfugié, le centre du Sénégal.
Vous travaillez aussi sur un projet de, on va en dire quelques mots, même s'il faudrait toute une émission, mais de lutte contre la déforestation en Casamance, qui est d'ailleurs financée par l'Union européenne, me semble-t-il, à hauteur de 700 000 euros.
Ouais.
Ça, c'est un problème crucial. On en parlait juste avant le début de l'émission. Vous me recitiez ce chiffre. C'est 400 000 hectares de forêts qui ont disparu au Sénégal.
C'est
15 dernières années à peu près, c'est une proportion importante par rapport à la totalité, bien que on n'est pas dans un pays réellement de forêt.
On n'est pas dans un pays réellement de forêt, mais dans le pays, on est dans une zone réellement de forêt. C'est ça la différence. On est en Casamance, c'est une zone de forêt. Et là également, on est avec le CNCR, hein, qui est une plateforme également qui regroupe des paysans et des groupements forestiers. Et c'est avec cette organisation-là qu'on est dans cette zone-là. L'idée, c'est de mettre plus de citoyenneté dans la gouvernance des forêts pour que les communautés locales, les populations, les usagers soient davantage impliqués dans la gestion de ces forêts-là et qu'on dépasse la question de la surveillance qui, de notre point de vue, n'a pas d'importance. Le plus important, c'est comment éveiller une conscience citoyenne, environnementale, écologique qui puisse permettre aux populations d'être elles-mêmes, avant tout, les premiers gardiens des forêts et des arbres. Là, on a l'espèce qu'on appelle le vêne, qui est un type de bois très recherché, qui est actuellement en train d'être vraiment agressé dans cette zone-là. Et l'idée, c'est
qui est au cœur d'un trafic des mafias, c'est revendu à l'étranger.
Bien sûr. C'est ça, c'est comme on est dans une zone transfrontalière entre le Sénégal et la Gambie, il y a une sorte de mafia qui fait que ces bois-là sont coupés, transportés en Gambie, puis acheminés en Chine. Donc ce qui fait que c'est une masse financière et finalement tout le monde s'y met, même les communautés qui pendant 100 ans ont protégé ces forêts-là.
Qu'est-ce qui a changé depuis janvier dernier où une dizaine de jeunes se sont fait sauvagement assassiner dans la forêt de Toubacouta ? Au cœur de ce trafic et des mafias?
Ben, l'État, la première réponse que l'État a apportée, c'était de dire, je mets des cantonnements militaires pour un peu amoindrir la situation, mais tout le monde le sait, ça ne règle pas forcément le problème.
D'où ma question. Qu'est-ce qui a changé dans les mentalités, dans les discussions, dans les concertations citoyennes?
Ben, dans les concertations citoyennes, on voit davantage que les communautés et les élus locaux sont prêts au moins à discuter, y compris également les services des eaux et forêts. Ils sont prêts à discuter, à accompagner les communautés dans plus d'éducation environnementale et plus mieux s'organiser pour défendre, restaurer surtout, parce qu'il y a vraiment des forêts également à restaurer dans cette zone-là. Maintenant, c'est des discussions qui ont commencé, qu'on accompagne sur le terrain, et nous pensons qu'avec le temps, normalement, il y aurait un éveil de conscience qui va permettre à tout un chacun vraiment de mieux s'impliquer dans la protection de ces forêts-là. Et on vise notamment les jeunes et les femmes, parce que c'est vraiment...
C'est-à-dire beaucoup de monde.
Voilà.
Babacar Gueye.
En fait, je voudrais revenir sur une interpellation en disant que le lait peut rapporter au Sénégal. Et il y a un projet sur lequel Iba a travaillé et qui est intéressant, dans lequel le lait est en train de rapporter à des femmes, notamment du monde rural. Et je pense que je peux laisser Iba d'en parler, ce serait intéressant.
Et aussi le potentiel de biomasse qu'il y a en Casamance, peut-être qu'on pourrait développer en
faire de l'énergie. synergie
justement
avec,
pour lutter contre la déforestation en Casamance?
Oui, c'est possible. Déjà, en Casamance, il y a pas mal d'unités de production de charbon qui n'est pas forcément le charbon de Tifa. Mais effectivement, il y a des passerelles à voir. Il y a des possibilités, des synergies qui sont là. Après, ce qu'on peut dire sur le lait, je suis d'accord, hein, quand on parle de l'élevage, ça peut être forcément que pour fertiliser les terres. Mm-hmm. Dans d'autres terroirs, ça peut être pour carrément créer une filière lait qui marche. C'est ce qu'on a fait à Dagana dans le cadre de notre projet qu'on appelle Astel. Avec,
voilà, et c'est quoi le secret d'une filière lait qui marche au Sénégal?
Une filière lait qui marche au Sénégal, c'est d'abord une filière qui fait un pas important dans la transformation et dans la mise en place.
Qui ne vend pas son lait comme ça en tant que matière première.
De transformation.
Transforme le lait.
Mais avec un circuit de collecte qui permet de collecter l'ensemble des campements d'éleveurs et qui permet un peu de valoriser le lait en tant que tel. Mais malheureusement, à côté, il y a un bémol parce qu'à chaque fois qu'on a valorisé le lait, ça échappe aux femmes parce qu'au début, c'était une activité des femmes. Maintenant, quand c'est valorisé, ça revient aux hommes. Donc ça aussi, c'est...
Voilà. Vous avez tout dit sur le problème du développement.
Et par là aussi, je pense qu'à ce niveau, quand on parle du lait, moi je pense aussi qu'il y a une certaine volonté quand même politique qu'il faut aussi aborder. Moi je pense que si des
initiatives... Vous parlez de la pression fiscale sur les Sénégalais?
Sur les Sénégalais, sur le fait que la majeure partie du lait que nous consommons est importée. Donc, alors qu'il y a
du lait en poudre qui est moins taxé.
Alors qu'il y a des initiatives...
Et en même temps, il faut bien avoir un lait très produit, très peu cher et vendu très peu cher pour la masse de la population.
Pense que quand on va dans des solutions comme ce que Iba a présenté, ça peut être une solution viable. Ouais.
Dans quelques instants, on part au Mali, mais je vous rappelle le numéro de téléphone du Standard, 33 1 84 22 71 71. Vos témoignages, vos réactions nous intéressent sur des projets concrets qui fonctionnent en Afrique.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Charles-Lovis Bakiono, alors vous êtes basé au Mali, au ministère de la formation professionnelle, vous représentez le GRET au Mali et vous pilotez un projet de formation des jeunes à Ségou, à Sikasso, notamment pour remédier au surplus agricole, pour transformer des produits agricoles, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le projet amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle, un projet financé par l'Agence française de développement dans le cadre de la coopération entre le gouvernement français et le gouvernement du Mali, vise à créer une nouvelle offre de formation professionnelle dans les métiers dits para-agricoles. Mmh. Et ça va de la maintenance des équipements agricoles. Mais on est un focus, on va travailler beaucoup sur la transformation des produits agricoles.
Comme, par exemple,
comme les tubercules dans la région de Sikasso. Sikasso, c'est dans l'ouest du Mali, à la frontière avec le Burkina. Mm. Mais du côté de Ségou, on a la transformation des poissons et viandes. Ségou, c'est au centre du Mali, enfin à partir de Bamako en remontant vers le centre du Mali. Donc l'idée,
le but, c'est quoi? C'est d'éviter le gaspillage dans la production?
Tout à fait. Éviter le gaspillage, mais aussi valoriser la production. Je cite souvent comme exemple le fait que quand je suis arrivé pour la première à Sikasso, j'ai voulu payer de la patate. J'ai voulu en payer pour 3000 francs CFA. Je me suis retrouvé avec un gros sac. Je pense qu'il y avait une erreur. La dame m'a dit que ça faisait 50 francs le kilo.
Bon, ça veut dire que c'est vendu à perte?
C'est vendu à perte, alors que transporter les produits à l'état juste après la récolte, ça coûterait quand même très cher de les amener ailleurs. Et le stockage poserait problème. Donc l'enjeu peut être véritablement de transformer ces produits localement.
Qu'est-ce qu'on peut transformer à partir de patates douces?
À partir de patates douces, on peut avoir des chips. On peut avoir des frites, on peut avoir de la farine qui rentre dans la confection de pâtisserie. Et voilà, il y a pas mal de possibilités autour de... Mais il n'y a pas que la patate douce dans la région de Ségou, il y a de l'igname. Mais les céréales aussi sont prises en compte. Le lait également, on l'a évoqué tout à l'heure. la transformation du lait.
Comment se porte l'agriculture aujourd'hui au Mali dans un contexte de forte insécurité? Il y a aussi, on en a pas mal parlé, l'accaparement des terres par de grands groupes nationaux ou étrangers. Est-ce que ces problèmes-là sont compatibles avec des micro-projets de formation des jeunes pour transformer des produits agricoles? Est-ce que vous pouvez vous désolidariser de cet environnement néfaste?
Non, je ne pense pas que l'environnement soit aussi néfaste que ça. Au Mali, il y a encore des terres cultivables. Il y a un potentiel, un réel potentiel par rapport au développement de l'agriculture. Comme dit, il va falloir pouvoir encourager les jeunes, les agriculteurs à produire, notamment en faisant en sorte qu'ils soient capables de vendre au juste prix leur production. Et c'est là où ça passe par... Mais on n'a pas de tension sur les terres au point que ça puisse freiner véritablement le développement de l'agriculture. C'est comment valoriser surtout la production, faire en sorte qu'elle puisse créer de la richesse pour les producteurs. C'est véritablement là l'enjeu.
On a le sentiment, finalement, quand on vous écoute les uns et les autres, que vous êtes davantage confrontés à des défis logistiques, à des défis commerciaux, économiques, plutôt qu'à de purs défis techniques, non ?
Ah, tout à fait, tout à fait, c'est ça.
Il y a des éléments de contexte souvent qui ne favorisent pas ou qui posent problème dans le cadre de nos projets, mais avec peut-être toujours des réponses qu'on peut toujours apporter stratégiquement.
C'est toute la question de la structuration des filières. C'est toujours assez compliqué, que l'on soit sur l'agriculture ou dans un autre domaine. C'est toujours très compliqué et en fonction de l'environnement, comme on l'a dit tout à l'heure, où on est également, ça peut aller plus vite. En fonction même des régions ou des pays, ça peut aller plus vite. Mais je pense que...
Dans ces cas-là, quand tout d'un coup, il y a un coup d'accélérateur, c'est dû à quoi ? Vous ne croyez pas au miracle ?
Non.
Mais... Qu'est-ce que vous pouvez dupliquer à l'heure actuelle ?
Qu'est-ce qu'on peut dupliquer ? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut dupliquer. Après, ça dépend à quelle échelle on va dupliquer ces choses-là. Je donne l'exemple sur les activités agricoles dont je parlais tout à l'heure.
La diversification, élevage, maraîchage.
Pas que la diversification, ça c'est un élément, mais rien que la prise de conscience de cette nécessité-là dans un contexte de changement climatique et tout, de faire l'agriculture autrement et d'utiliser les ressources naturelles autrement, moi je pense que ne serait-ce que là, il y a vraiment des éléments à partager et des choses à construire.
Il y a aussi, pour ma part, une préoccupation par rapport à l'environnement, le contexte global de commercialisation notamment. C'est vrai que dans nos pays, nous consommons quotidiennement de la purée de tomates importées, notamment d'Italie.
D'Italie, mais souvent c'est un double ou triple concentré qui arrive de Chine et qui est redélayé par l'Italie. Voilà. On a fait une émission qui a beaucoup marqué les auditeurs.
Pendant ce temps, des paysans qui se lanceraient dans la culture de la tomate auraient des difficultés à écouler leurs tomates parce qu'il va falloir qu'elles soient enlevées, éventuellement transportées jusque dans les pays où elles sont susceptibles d'être transformées pour revenir.
Mais même si vous avez des unités de transformation pour faire directement du coulis de tomate et que ça serve au ménage et aux consommateurs locaux, comment vous êtes rentable par rapport à...
On ne peut pas être... Actuellement, la difficulté, l'enjeu est là parce que tant qu'on n'aura pas une politique fiscale commerciale qui protège la production locale, et que des importateurs auront la possibilité de faire venir des produits sans payer les taxes comme cela se doit. Bon, on est mal à l'aise de pousser à la production. Parce qu'après, la personne a sa production, mais elle ne lui permet pas de vivre. Et on va se retrouver.
Vous avez bien résumé les situations. C'est le mot de la fin, je suis désolée, mais il faudra bien sûr revenir. Merci à vous tous d'être passés par le studio de RFI à l'occasion de votre séjour pour la réunion annuelle du GRET. Merci à vous, Amina Tandir. Merci, Babacar Gueye. Merci, Bamar Faye.
Merci à vous,
Charles Lovis Bacchiono. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins. Éducation comme chaque vendredi, journée internationale de l'alphabétisation. Comment apprendre à lire et à écrire. Conseils pratiques et astuces.